Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Aujourd'hui, on va détailler ce qu'il y avait à retenir dans le CES 2024. On va vous expliquer le procès du New York Times contre OpenAI et parler un petit peu aussi de la sûre et lente déchéance de Twitter. C'est tout de suite dans Rendez-vous Tech. Et on aura d'autres choses hyper intéressantes également, c'est le retour des vacances. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, c'est le Rendez-vous Tech numéro 545. Nous sommes en 2024, en janvier, et je suis très heureux de vous retrouver et de retrouver également mon compagnon de longue date dans l'aventure du podcast Tech, Cédric Ingrand, qui est là, mais qui n'est pas au bureau, et donc il a un micro qui ne le satisfait pas.
Ah non, je suis foudrage en fait pour tout dire. le micro, les micros, c'est mon fétiche. J'ai plusieurs fétiches dans la vie, j'ai les micros et les bagages. Voilà. Alors, on a fait le tour. Les bagages, c'est plus embêtant parce que ça prend de la place, ça se voit. Mm-hmm. Donc à chaque fois, il faut que je promette à Madame Ingrand que quand j'en achète un, j'en jette un autre, ce qui est déchirant.
Bref, par contre, pour les micros, pas de problème. Tu peux avoir 40 dans ta maison.
T'en mets 12 dans un tiroir. Moi, j'en ai plein de tous les formats, de tous les trucs. Très bien. Il se trouve que, on le disait tout à l'heure, il a neigé sur Paris, sur l'ouest parisien particulièrement, où je suis. Ah bah, évidemment, toi, de la Finlande, tu ricanes, mais 5 cm de neige, ici, bon, voilà, quoi. Et donc, il y a 400 personnes qui, à 5 km de chez moi, ont passé la nuit sur l'autoroute, si tu peux, bloquées dans leur voiture.
Donc, ça, c'est pas drôle.
Ce matin, aux aurores, je me suis dit, écoute, on va pas d'héroïsme déplacé, j'ai pas besoin d'aller au bureau, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, je peux le faire à distance. Ok, super. Et là, je me dis, tiens, en fait, pour le podcast là, avec Patrick, je vais prendre mon Rodecaster. Tout le monde connaît à peu près le Rodecaster, c'est un truc qui permet d'enregistrer des podcasts de manière simple, efficace, tout ça, etc. J'en ai 3 des Rodecaster. J'en ai un, qui était le premier, que j'ai prêté à un ami qui fait un podcast. J'ai le second, le dernier, le top de la mode, que j'ai prêté à madame pour une pièce de théâtre. Et le troisième, c'est celui que j'ai au bureau. Donc, je n'ai pas de Rodecaster. Mais je me dis, attends, je vais bien arriver à trouver un truc pour connecter un micro à mon Mac. Enfin, eh ben non. J'en ai terminé par un appareil que tout le monde connaît, c'est qu'il y a un recorder.
Ah oui, le Zoom. Là, c'est le H4, H2.
Oui, le Zoom H4N, connu comme le loup blanc, qui peut faire interface USB, ce qu'on sait assez peu. Sauf que, regarde là, alors ça marche moins pour ceux qui n'ont que le son, l'interface, c'est un mini USB. Micro USB, un mini USB. Et voilà Cédric parti dans la grande quête de « bordel, je dois bien avoir un câble mini USB dans la maison ». Et là, c'est vrai qu'il y a des fois, on prend des bonnes résolutions et on se dit, ce vieux carton de câble là, dans lequel
mais
il y a des câbles Péritel.
Il ne faut jamais jeter aucun câble, aucun. Il faut tous les garder à vie.
Il y a eu une pression familiale chez moi assez forte à un moment en disant, tu n'as pas besoin de 6 cartons de câble, mais on ne sait jamais. Et donc, j'ai trié, retrié par filtre
successif. Et tu n'as pas gardé un seul câble mini USB, erreur de débutant.
En fait, si, j'ai refait un tri encore cet été et il y a eu un accident industriel majeur dans la maison Ingrand. C'est que madame a dit ce qu'il a mis dans le sac, là, c'est ce qu'il voulait jeter, c'est ça ?
Et elle l'a acheté. Oh là là.
Voilà. Et voilà. Écoute, et voilà le résultat.
Je pense, ne
jetez rien, cachez tout.
On va pas blâmer madame, on va blâmer la neige. Non. C'est la faute de la neige. Effectivement.
En fait, voilà, c'est la faute de la neige.
Écoute, moi, je suis de retour en Finlande après 2 bonnes semaines en France où j'ai pris seulement 1 kilo. Je suis assez satisfait. Je me suis dit, ça va être la catastrophe pour le Fit Patrick Challenge. En fait, juste 1 kilo, ils seront rapidement perdus dans le mois. Enfin, il sera rapidement perdu, je pense. Mais par contre, on est revenu. Il faisait pas genre 2 cm de neige et moins 3. Il faisait moins 20. Moins 20. Et là, on a. La température est vachement remontée, il fait moins 8, tu vois. Non, j'exagère, là, il va faire même 2 degrés. C'est l'été, hein. Et donc, la neige, j'en ai bien 30-40 cm. Et ça revient à moins 14, moins 15 la semaine prochaine. Enfin bref, on est vraiment dans le nord, on est vraiment en Finlande. Mais c'était un moment sympathique de revenir, tu vois, par le froid. En plus, le chauffage ne marche pas dans la voiture. On a dû prendre des combinaisons pour les enfants. Comment récupérer les combinaisons du parking pour les habiller là. Avant de sortir de l'aéroport, tout ça. Enfin, les joies du grand.
C'est ce que me raconte ma belle-mère canadienne qui a quand même eu 10 enfants et qui dit l'enfer de l'enfer, c'est les enfants qui disent « on va aller jouer dehors ». Et là, il faut les équiper de pieds en cap avec le col en chaud, le machin, le sous-pull, le pull, le truc, le surblouson, la parka, le bon élégant. Ils sortent et au bout de 8 minutes, c'est « ah, il fait froid ».
Mais oui, il faut re-rentrer. Mais c'est horrible. On est sortis hier dimanche. Non, avant-hier dimanche, on est sorti. Je me suis dit, oh, c'est super beau, soleil, radieux, machin. Il faisait moins 17. On est sorti, on s'est habillé, on a mis une demi-heure. On est sorti, au bout de 5 minutes, moi, j'en pouvais plus. J'exagère, on est resté un quart d'heure dehors, on est rentré. Mais le pire du pire, je vous promets, on va parler de NewsTech dans un instant.
À un moment, ouais.
Le pire, c'est tous les matins, tu te réveilles à 7 heures et il faut les habiller pour aller jusqu'à la crèche. Ils vont petit déjeuner à la crèche. Il faut les habiller. Ça prend une demi-heure avec la petite qui a 2 ans, donc qui est pas contente de s'être levée et qui est hyper de mauvaise humeur. Et genre, après, c'est pas bien, tu mets le bonnet, c'est pas bien. Et c'est pas expliqué, donc c'est pas bien, tu mets les chaussettes, c'est pas bien. Donc voilà, la vie dans le grand froid.
Il y a une solution à ça. D'abord, il faut retirer les miroirs.
Ah non, mais non, c'est pas ça. C'est qu'il y a genre, tu sais pas, il y a les cheveux qui sont pas bien mis, il y a le pli de la chaussette qui est pas sur le bon orteil. Enfin bon, c'est ce genre de truc, tu vois, c'est pas... Bref, ouais.
Bienvenue
voilà
dans Histoire de Daron.
Écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Les nôtres étaient délicieuses, évidemment. Il y a eu plein de sujets intéressants que j'ai vus dans ma veille, que je mettrai dans la newsletter. Il y a vraiment, ça va être une newsletter où il y aura plein de sujets que j'ai sélectionnés qui seront intéressants. J'espère que pendant les vacances, vous avez apprécié les épisodes spéciaux. On a eu des bons retours, donc j'espère que vous avez passé de bons moments avec ces épisodes sur le journalisme indépendant et sur l'IA. L'IA en pratique. Et il y a aussi un truc que je voulais dire. Je vais faire dans quelques jours un édito spécial pour parler un petit peu de ma ligne éditoriale sur 2024, parce que j'ai eu des commentaires pendant les vacances sur des gens qui n'étaient pas forcément satisfaits de certaines choses. Donc, je voudrais clarifier la manière dont j'envisage les sujets, et en particulier les sujets de société, hein, quand on parle de conséquences sociales de la tech. Je vais faire un petit édito qui sera pour une fois public et que je vais mettre dans les flux publics. Donc ça arrivera ce week-end pour parler de ces sujets-là. Une bonne fois pour toutes, on va dire, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh Patrick, t'es trop à gauche !» Et dans la même semaine, il y a quelqu'un qui me dit « Oh Patrick, t'es trop à droite, j'arrête le Patreon !» machin. Donc, je vais expliquer sur ces questions précises et puis donc définir un petit peu comment j'envisage ma ligne éditoriale sur cette année et ce que je fais de l'émission, parce que c'est vrai que l'émission a beaucoup changé par petites touches, mais ces 10 et 15 dernières années, puisqu'on entre dans la 15e année de podcast. C'est pas encore les 15 ans, mais on entre dans la 15e année et dans la 10e année de Patreon. 10 ans de Patreon, enfin non, ça fait pas 10 ans, mais on entre dans la 10e année de Patreon, ça a commencé en 2014, et j'aimerais donc vous rappeler que si vous ne voulez pas de pub, si vous voulez des bonus, bah vous pouvez vous abonner sur Patreon, évidemment, comme l'ont fait Lotto, Florian Belleville, Thibaut, Nicolas Fournier, Asmodeus, Nicolas Cardinal. Merci à vous tous de soutenir l'émission, et merci aux producteurs Eric Bastin et Derek Herbe, qu'on remercie tous les mois parce qu'ils ont trouvé le niveau secret sur Patreon. J'envisage des choses aussi sur Patreon, je vous en parlerai également, mais l'édito public qui arrivera ce week-end. Et sur ce, on se lance dans les news de l'émission. C'est parti! On va vous parler du CES 2024 avec, comme toujours, beaucoup de choses qui se passent dans le CES, évidemment. Beaucoup de choses avec des choses intéressantes, parfois des choses moins intéressantes, parfois aussi. Et on va vous parler des choses qu'on retient, des informations qui sont parfois rigolotes, parfois inutiles, des produits qui ne verront jamais le jour, mais qui sont quand même amusants à décrire. Et puis des choses véritablement intéressantes. Et comme toujours dans l'émission, je vais essayer d'aller un petit peu derrière les annonces pour comprendre ce qu'il faut retenir, non pas de la partie marketing de l'annonce, mais de ce que ça veut dire dans le fond sur l'industrie et sur nos usages. Alors, on va commencer immédiatement avec ce qui est certainement la partie la plus importante de ce CES, ou en tout cas du début du CES, qui est comme toujours le gros événement qui lance l'année tech. Il est moins important qu'il y a quelques années, mais il est quand même, c'est lui qui donne le ton, qui donne le là à Las Vegas. Et la conférence la plus importante, c'est celle de Nvidia, qui est vraiment la boîte qui a le vent en poupe, on va dire, ces dernières années, et depuis qu'ils ont fait un gros pari sur l'IA. Et les choses que je retiens, c'est notamment de l'IA, évidemment, puisqu'ils ont annoncé des choses hyper intéressantes, comme par exemple un partenariat avec Getty Images, un partenariat qui permet à Getty Images d'utiliser leur moteur Picasso, qui va permettre de générer des images par IA pour satisfaire à vos besoins de création d'images et d'illustrations. Vous savez que Getty Images, évidemment, c'est une banque d'images, avec iStock notamment. C'est une banque d'images qui vous donne généralement des images prises par des vrais photographes. Ben là, ils ont un partenariat pour générer des images que vous souhaitez, et c'est un fonctionnement qui est assez intéressant, puisque vous pouvez d'abord établir un fond, et puis ensuite ajouter des éléments sur ce fond. Vous allez peindre un petit peu comme c'est possible sur différents outils, notamment sur Photoshop, vous allez peindre une section de l'image et dire, là, tu rajoutes une femme avec un pull, ou une femme avec un blouson. Et vous pouvez ensuite allonger l'image et l'IA va générer ce qu'il y a au-dessus et en dessous, ou sur les côtés, ou générer quelque chose en plus, ou modifier une partie. Bref, vous pouvez comme ça ciseler l'image dont vous avez besoin. C'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui entre dans l'aspect commercial de l'IA et qui crée des usages réels de l'IA, et de l'IA qui est dans un domaine traditionnellement où on a besoin de personnes et de vraies personnes. Ça, c'est l'un des sujets dont on a entendu parler chez Nvidia. Mais il n'y a pas que ça. Toujours dans le domaine de l'IA, il y a aussi dans le jeu vidéo, on parlera plus de ces questions de jeu vidéo dans le rendez-vous jeu dans deux jours, mais il y a l'utilisation de l'IA pour créer des personnages et des conversations réalistes dans des jeux vidéo, mais générées aléatoirement, c'est-à-dire qu'on va avancer vers des personnages dans un jeu vidéo et ils vont eux avoir une conversation qui est écrite par IA, donc qui va changer en fonction de la situation ou en fonction du moment où on va s'avancer vers eux. Et on peut même leur parler en parlant avec de la voix, vraiment en parlant, puisqu'ils vont reconnaître notre voix, ils vont se retourner vers nous et répondre à ce qu'on dit. Donc ça, c'est des usages intéressants de l'IA qui ne font pas seulement remplacer du travail qui est fait par des vrais gens. Donc ça, ça pose une question, bien sûr, sur le remplacement des gens par des ordinateurs, hein, comme c'est le cas depuis des dizaines d'années dans la technologie, mais aussi offrir de nouvelles possibilités, puisque l'IA va pouvoir réagir à ce qu'on dit, nous. J'attends de voir les premiers exemples de réactions complètement aberrantes et ridicules, voire problématiques dans ce genre de cas. Mais si c'est bien programmé, ça devrait fonctionner. Il y a aussi toujours chez Nvidia, une manière d'utiliser leurs outils d'IA qui sont déjà, enfin leurs outils qui existent déjà par ailleurs, qui sont notamment Isaac. Je vais retrouver les noms des outils. Omniverse et Isaac, c'est ça, je crois. Bref, c'est des outils de simulation, en fait, qui permettent de simuler par IA. C'est ça, Omniverse et Isaac Sim, qui permettent de simuler des choses par IA appliquées à la robotique. Là où c'est hyper intéressant, c'est qu'ils peuvent simuler des situations pour développer les capacités de ces robots. Et quand on parle de robots, on parle de robots qui vont transporter des choses dans des hangars, comme des robots qui vont préparer la table pour votre repas. Hein. C'est vraiment toutes sortes de robots. Et donc, grâce à l'IA et grâce à Omniverse et leurs outils de simulation, ils vont pouvoir simuler des situations pour créer des modèles qui vont mieux fonctionner avec ces robots. Il y a en fait, quand le robot va capter son environnement, il le numérise et il va travailler sur cet environnement numérique. Donc que cet environnement existe réellement ou qu'il soit virtuel, ça ne change pas grand-chose pour son entraînement. Et grâce à ces outils développés par NVIDIA, eh bien, on va pouvoir entraîner ces robots plus rapidement dans ces univers virtuels. C'est des choses qui se passent généralement assez régulièrement, mais là, ils le mettent en avant dans cette keynote. Il y a d'autres choses aussi, hein, des nouvelles cartes graphiques, des services supplémentaires, mais ça, c'est les choses que j'ai retenues chez NVIDIA spécifiquement. Ça, c'est la partie tadam, NVIDIA avec leur conférence. Il y avait des choses intéressantes quand même, et c'est vrai que NVIDIA, ils ont le vent en poupe, quoi, en ce moment.
Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que c'est plus le vent, c'est la tempête. C'est-à-dire que, rien ne les arrête. Alors c'est intéressant parce qu'ils pourraient être tentés, tu vois, de profiter de l'élan pour faire d'autres choses, pour se diversifier. Alors il ne faut jamais non plus oublier que ils sont des fournisseurs de technologies en OEM pour plein de constructeurs, etc. Donc il faut qu'ils aient une idée précise de jusqu'où ils peuvent aller trop loin. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qu'on aimerait bien voir s'en sortir, imaginés par NVIDIA. Enfin, tu vois, des devices, là, pour le coup.
Là, dans le matériel, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop dans le matériel. Il y a des gens qui viennent nous dire bonjour dans le fond, chez toi. Bonjour à tous.
Bonjour.
Mais bon, on va continuer à avancer avec la partie suivante. Après, tadam, NVIDIA, c'est des trucs un petit peu plus rigolos. Tadam, Lenovo. Lenovo, constructeur de PC bien connu. Ils ont récupéré le business PC de IBM, si je ne me trompe pas. Lenovo, c'était IBM, hein, c'est ça. Et c'est aujourd'hui un constructeur indépendant. Et ils ont fait des produits qui me paraissent assez intéressants. Le premier d'entre eux, c'est un hybride PC et tablette Android. En fait, le clavier est un PC où il y a tout ce qu'il faut sur le PC et l'écran est un écran quand il est connecté, mais on peut le détacher. Et quand il est détaché, ben en fait, c'est une tablette Android qui a tout ce qu'il faut pour la tablette Android. Donc, c'est vraiment en fait deux machines et le PC se sert de la tablette comme écran quand il est connecté, comme un laptop tout à fait normal. C'est le genre d'idée, de concept intéressant, mais qui, à mon avis, risque de ne pas être ultra utile dans la pratique parce que, enfin, on peut avoir besoin si on a une tablette et un laptop indépendamment, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, la tablette devient écran du laptop. L'idée est intéressante. Est-ce que le produit
est intéressant ? Il y a eu plein de tentatives là-dessus. Hein. Il y a un autre produit, d'ailleurs, un laptop qui, justement, a ses propres écrans d'extension, en gros, tu vois, pour être en multi-écran, même quand tu es en voyage. Bon, là aussi, c'est pas la première tentative. On ne sort pas de la dualité entre l'ordinateur d'un côté et la tablette de l'autre. Parce qu'en fait, à la fois ce qu'on en fait est au final assez différent. Enfin, on voit bien que tu vois la tablette n'a pas tué le PC portable, quoi, du tout. Enfin,
oui, c'est ça.
Très peu. D'autant que l'essentiel du marché du PC portable, c'est quand même l'entreprise. Et là, on est des gens sérieux, on travaille sur des ordinateurs. Parce qu'en plus, il y a des questions de sécurité, de maintenance, de tout ça, de flexibilité, de plateforme logicielle. Ou si tu veux citer Stellantis, demain tu vas pas faire passer tes gens sur des tablettes parce que sinon il y a l'essentiel des 2000 applications d'entreprise que tu utilises au quotidien qui marcheront plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça pourrait le faire. C'est une convergence qu'on voit à l'œuvre côté Apple, où ça y est, tu peux faire tourner des applications iPad sur ton Mac. Mais ils n'ont pas encore sauté le pas de dire, allez, c'est la même chose maintenant. Un iPad et un MacBook, c'est pareil.
Ouais.
Je pense qu'on n'en est pas là.
On n'en est pas là. Et puis, je pense que cette idée que l'appareil en question là, dont on parle puisse être utilisé juste comme un laptop, bah, du coup, tu n'as pas besoin de ta tablette. Si tu veux ta tablette, tu n'as pas besoin de ton laptop. Je ne sais pas s'il y a une vraie valeur ajoutée à fusionner les deux comme ça. Bon, écoutez, on verra. Il y a un autre appareil qui me paraît intéressant chez Lenovo. C'est en fait un laptop dont le dos est un écran en e-ink. Donc, au lieu d'avoir un dos tout gris sur lequel on va coller des stickers, eh ben on peut afficher une image, une photo. C'est vraiment de l'e-ink, donc c'est quelque chose qui peut rester et qui ne consomme pas du tout d'électricité quand l'image est figée. Et donc, ça peut personnaliser un petit peu l'appareil. Le problème, c'est que ça fait un écran derrière, même si c'est un écran e-ink. Là encore, c'est une idée marrante. C'est exactement le genre de choses qu'on va trouver au CES. Je ne suis pas convaincu que les gens courent acheter des laptops avec un dos en e-ink. Ça coûte sans doute plus cher à faire et l'utilité est limitée, quoi. Mais l'idée est marrante. C'est un peu ça,
gens, le CES. Il y a des métiers, il y a des applications pour lesquelles ce sera intéressant. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'à CES, souvent, j'essayais de me concentrer sur, tu vois, les technologies fondatrices, c'est-à-dire l'évolution des écrans plats, LCD, LED, micro-LED, etc. Là, par exemple, chez Samsung, on voit du micro-LED transparent. Et là, tout à coup, oui, tu peux imaginer plein d'applications qui ne sont pas forcément des applications pour aujourd'hui, mais on est sur des technologies qui vont trouver des dérivés partout. Peut-être que Lenovo en fera un laptop transparent. Je suis sûr que ça a un grand avenir. Mais
ah, écoute, dans tous les films de science-fiction, les écrans sont transparents. Hein, donc, à mon avis, c'est vers ça qu'on va, c'est évident.
Bien sûr, oui, clairement. parce qu'on a quand même souvent l'impression que du côté des plus grandes marques, elles ont une espèce de, tu vois, de bingo du CES en disant, bon, alors, pourquoi on va à CES? Bah, d'abord, pour voir tous nos clients, check. Pour montrer tous les nouveaux produits qu'on va vendre, check. Ah, mais il y a quand même une case qui reste souvent à cocher, qui est de dire, bon, qu'est-ce qui va faire parler de nous? Ah ben, chef, je crois qu'on a un laptop, on va mettre un ink derrière. Ça sert à quoi? Je ne sais pas, mais je pense que ça fera parler. Voilà. Et c'est pour bingo. Ça que c'est... Non, mais c'est pour ça aussi qu'on voit souvent de loin CES comme un truc parfois un peu inconséquent, tu vois, genre le grand bazar de l'innovation qui ne sert pas à grand-chose, etc. Ce qui est un peu facile, parce que c'est évidemment réducteur par rapport à la taille et à l'importance économique de l'événement, mais je vous rassure, les 140, 150, 160 000 personnes qui vont à CES, elles n'y vont pas pour acheter un laptop qui a un dos en ink, elles y vont pour choisir ce qui sera dans tous les rayons partout à Noël prochain, etc. Donc, c'est ce côté un peu, tu vois, concours Lépine qu'on met souvent en avant, parce qu'évidemment, c'est nouveau, c'est différent. Donc, ce qui est nouveau, intéressant et différent, c'est ce qui fait l'actualité, mais c'est pas le fond de l'affaire.
Et tu parlais de l'écran transparent de Samsung, effectivement, il est assez beau, franchement. Il est, alors, pas 100% transparent, mais l'image est hyper, hyper lumineuse et... Ah ouais. Vraiment vibrante, comme on dit en anglais. Les couleurs sont hyper, hyper claires. Et ça peut être utile pour plein de choses. Je ne suis pas certain qu'on aura les écrans des films de science-fiction et de Marvel demain. Mais par contre, une vitrine, par exemple, de l'affichage ou ce genre de choses, ça peut avoir des usages spécifiques.
Bah ça va se retrouver dans l'affichage commercial. Enfin, tu vois, dans les trucs, dans les magasins, dans tout ça. Ah bah, c'est pas on imagine. Ce qui est intéressant, parce que c'est un monde dans lequel je viens de me lancer... parce que j'ai racheté un lot d'écrans ce soir pour équiper un nouveau studio de podcast que je traiterai à faire. Et j'ai découvert un monde que je ne connaissais absolument pas, où tout est
celui
très
de l'affichage
compliqué.
Commercial.
Ah, celui de l'affichage commercial. Enfin bon, bref, c'est à la fois passionnant et bourrifant. C'est-à-dire que tu crois que tu arrives, tu vois, comme un sachant, en disant, attendez, brancher des écrans et afficher des trucs à l'intérieur. Excusez-moi, regardez à qui vous parlez, monsieur. Et en fait, bah, voilà, ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est comment ça marche, ce truc. Voilà.
Il y a un autre truc intéressant chez Samsung, deux autres. Il y a The Music Frame. Alors, vous vous souviendrez peut-être de The Frame, qui est leur écran qui ressemble à un tableau. Il y a même une version avec zéro reflet qui est hyper bluffante. C'est une télé, en fait, mais qui ressemble à un tableau. Le design est conçu pour ressembler à un tableau. Bah là, The Music Frame, ce n'est pas un écran, c'est des haut-parleurs qui ressemblent également à une sorte de cadre photo. Et il n'y a pas d'image mouvante, enfin, il n'y a pas d'écran, en fait. C'est simplement une image, une photo, quoi, imprimée. Mais c'est une enceinte qui ressemble à un cadre photo. Donc, c'est toujours dans le but de faire disparaître la technologie. Il y a un petit câble transparent pour connecter à sa télé ou sa chaîne Hi-Fi ou ce genre de choses. C'est The Frame, la télé a eu pas mal de succès. Je me demande si ça aura aussi du succès, mais c'est un autre des trucs intéressants. Et le dernier truc intéressant qui est... C'est tadam, un peu n'importe quoi du CES, possiblement, toujours de Samsung, c'est Bolly. Genre une balle, mais i en petit. C'est un petit robot sur roue qui doit faire, je ne sais pas, la taille d'un ballon de foot, qui a une caméra et des roues, donc qui peut se déplacer. Et il est connecté à la maison connectée, donc il peut contrôler votre maison connectée si tout est compatible. Et il a un projecteur qui lui permet de projeter des images. Et bien sûr, il est tout plein d'IA. Donc c'est genre un robot de maison, une énième tentative de robot de maison. Et on peut lui dire genre, viens dans le salon, on va regarder un truc. Ou viens, on va faire j'ai un conf call, tu peux m'afficher l'image de mon écran, machin. C'est le mélange robot, IA et maison connectée. Ah, le truc, c'est que je ne peux pas imaginer que ça fonctionnera comme ils en parlent, à moins que ça soit genre Samsung qui soit venu dans ta maison pour faire le design. Voilà. Quoi. Voilà. C'est le problème.
C'est ce qu'on appelle le problème, c'est-à-dire que c'est toujours la vieille promesse de la maison connectée depuis 40 ans, où tout fonctionne ensemble, etc. Et bon, ça, c'est beaucoup arrangé. Mais ça reste un truc où, si tu veux, quand vraiment tu veux t'y mettre, tu veux que le chauffage fonctionne avec la lumière qui déclenche par rapport à la musique du truc et que ça soit commandé en haut par Google, en bas par Amazon et que quand ta voiture rentre, etc., etc., faut quand même te relever les manches, quoi. On n'en est pas à l'époque du pur plug and play.
Pas encore. Mais bon, la manière dont la petite boule, il a une caméra, donc l'exemple qu'il montre, c'est qu'il surveille le chien, et quand il se passe un truc pas bien, il te dit « Oh, ton chien est en train de faire des bêtises », si tu l'as laissé un petit peu à la maison, pas très longtemps, hein, bien sûr. Et tu peux lui dire « Va lui distribuer des croquettes, parce qu'il y a un distributeur connecté, mets-lui de la musique qu'il aime, voilà. » Bon, s'ils font le même pour les enfants, peut-être que je commencerai à être intéressé.
Ça m'a surtout rappelé Rolly, le Rolly de Sony sorti il y a 17 ans.
Oui, bah c'est évidemment pas la première fois qu'on a ce genre de tentative. Hein, ça...
Lui, il faisait que de la musique, hein, il n'avait pas plus de prétention.
Le truc, c'est que la raison pour laquelle il continue à les faire, c'est qu'au bout d'un moment, ça finira par fonctionner. Ça finira par tous les éléments seront en place et s'aggloméreront pour faire un truc qui fonctionne. Et on aura les premiers vrais robots d'appartement ou les trucs qui aident ou les automates, machin. Je crois qu'on n'y est pas encore. Par contre, là où on arrive vraiment, c'est Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 7, ils ont profité, le Wi-Fi Alliance a profité du CES pour annoncer qu'ils étaient prêts à certifier les matériels Wi-Fi 7. Ça veut dire que maintenant, ils sont tous officiels et ils vont fonctionner ensemble, tout ça. Je ne vais pas passer 2 heures sur le Wi-Fi 7. En gros, on peut résumer en disant « c'est mieux ». OK, très bien. Le truc qui est vraiment intéressant dans le Wi-Fi 7, c'est le Multi-Link Operation, le MLO. C'est un truc qui fait que votre appareil peut se connecter à votre routeur par plusieurs bandes, longueurs d'onde, comment on dit bandes.
Bande de fréquence.
Bande de fréquence, merci. Donc votre appareil peut se connecter au routeur par plusieurs bandes de fréquence, c'est-à-dire le 2,4 GHz, le 5 GHz et le 6 GHz en même temps. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a plus de réactivité, moins d'interruptions, moins de problèmes pour l'envoi des paquets, parce qu'il n'a pas besoin d'attendre sur la bande qui est occupée de pouvoir envoyer son message, l'appareil. Et donc, en gros, on commence à arriver, a priori avec le Wi-Fi 7, à une connexion sans fil qui est comparable à une connexion filaire. Et ça, c'est vraiment à quasiment tous les niveaux. Alors bien sûr, il y aura toujours les puristes qui vont dire non, en filaire, il vaut mieux utiliser le filaire. Mais pour des trucs comme le jeu vidéo, pour des trucs comme la discussion en direct, podcast par exemple, etc., etc., avec le Wi-Fi 7, vraiment, déjà le Wi-Fi 6 et 6E, on est pas mal. Moi, je suis en Wi-Fi depuis très longtemps sur la plupart de mes connexions. Mais le Wi-Fi 7, on est vraiment, grâce au MLO, à quelque chose qui est vraiment fiable. Donc ça arrive, on aura les premiers appareils vraiment certifiés Wi-Fi 7 en 2024 qui commencent à arriver, donc vraiment déploiement à échelle les années qui viennent.
Ça a aussi entraîné une sacrée hausse des tarifs. Hein. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux un réseau chouette, mesh, plein débit, enfin un truc bien, tu vas chez Netgear, ce genre de choses. Tu vois, avant d'acheter un routeur Wi-Fi correct, tu disais, bon, ok, je mets 249 €, mais je vais avoir du Wi-Fi des potes. Et là, c'est alors 899 €, ah c'est une promo, monsieur. Hein. Profitez-en.
C'est... c'est effectivement pas donné. Il faut dire qu'il y a tellement de technologies. Bon, d'une part, il faut bien vendre le nouveau plus cher que l'ancien, hein, évidemment.
Normal.
Mais d'autre part, c'est vrai que c'est des appareils qui sont devenus de vrais ordinateurs, quoi. Un routeur, si tu veux, quelque chose qui est... D'autant plus si c'est un truc qui fait beaucoup de choses, comme les connexions à un mélo sur les trois bandes, par exemple, ça coûtera plus cher que sur deux. Bah oui, c'est des vrais petits ordinateurs, quoi. Avec plein d'antennes différentes, avec du beamforming, avec des, etc.
Ouais.
Sony a montré un nouvel appareil qu'ils appellent un Spatial VR Headset, donc un appareil de Spatial Computing, un petit peu comme Apple, dont on parlera dans un instant. C'est un appareil de réalité virtuelle et réalité augmentée, qui est contrôlé par une sorte de petite bague qui est assez intéressante comme moyen de contrôle, en plus d'une sorte de joystick, mais il l'envisage vraiment pour un marché professionnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler dans des environnements en réalité virtuelle et réalité augmentée, avec donc ce casque qui va vous permettre de créer des modèles en 3D. C'est vraiment un usage professionnel, c'est pas le PlayStation VR, c'est pas pour les jeux, c'est plus encore... qu'une nouvelle forme d'ordinateur, c'est de la modélisation 3D en réalité augmentée et réalité virtuelle pour les gens qui en ont besoin dans leur travail. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des constructeurs qui continuent à s'intéresser à ce segment parce qu'il est un petit peu, comment dire, il n'y a pas que des succès dans ces segments ces dernières années. Mais un sujet qui va encore plus t'intéresser, c'est celui des voitures électriques et connectées qui sont évidemment présentes au CES. Alors, on va prendre l'exemple de Sony et Xiaomi, dont on va parler pour différentes raisons. Sony, ils ont présenté leur voiture qui est conçue en collaboration avec Honda, qu'ils ont amené sur scène avec un petit gimmick rigolo. Ils la contrôlaient par une manette PlayStation 5. Bon, c'est rigolo quand ça arrive.
Il y a débat sur le fait qu'il la contrôlait vraiment. Hein. C'était peut-être juste aspirationnel.
Mmh.
Mais c'est la même voiture à la louche. Elle a évidemment changé à l'intérieur, qui nous montre depuis quatre éditions de CES. Il faut se souvenir, c'était une voiture qui était censée être juste une vitrine technologique sur tout ce que Sony pouvait apporter à l'intérieur. Et finalement, les gens ont fait « Ah, Sony fait une voiture !» Et chez Sony, ils ont dit « Eh, chef, en fait, on a fait une voiture. Ah, t'es con, faisons une voiture, alors !» Bien sûr.
Bon, ils sont associés avec Honda, entre-temps, quand même. Donc, ils ont l'expertise de Honda, également. Donc, c'est vraiment ce que Sony ferait d'une voiture. En gros, je schématise, hein, mais Honda fait la partie voiture, Sony fait la partie électronique, tout le reste. Il y a des écrans derrière, il y a tous les contrôles qui sont... Enfin, c'est beaucoup plus vers... on va dire, ça ressemble... C'est sans doute la voiture électrique qui ressemble plus à une Tesla des voitures électriques. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai vu.
Ah non, parce que...
Non, quand même pas.
Il y en a plein. Il y en a plein chez BYD, il y en a plein. Où tu sens... paternité ou au moins une cousinade, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça, c'est pas forcément le plus surprenant. C'est intéressant de voir ce que Sony met à l'intérieur. Alors le son est d'enfer. Enfin, il y a plein de choses qui sont évidemment merveilleuses, mais ça fait 4 ans, quoi. Bon, on se croirait chez Tesla. Tu sais, on te montre un truc en disant c'est beau, hein. Oui, ça va sortir. Ouais. we'll get back to you.
Bon, disons que pour faire une voiture, il faut quand même acquérir de l'expertise, même en s'associant avec un constructeur historique. Je comprends qu'ils mettent du temps à concevoir un vrai véhicule, peut-être que ça sortira un jour. Mais enfin, vraiment, on sent que Sony s'occupe de l'intérieur, ils ont mis le Unreal Engine, on peut jouer à des trucs de fou. Enfin, bon, ils n'avaient qu'à mettre une PlayStation 5 dedans, ou 3 ou 4, hein, peut-être une pour chaque siège. Mais voilà, c'est la voiture de Sony qui continue. Encore plus intéressant peut-être, la voiture de Xiaomi. La voiture de Xiaomi qui, toujours dans cet esprit de... Bah, une voiture, c'est un iPhone avec des roues, qui est un... Je ne sais plus qui l'avait dit, mais c'était assez prescient. Et bien, Xiaomi, ils ont présenté leur voiture avec leur Hyper OS, qui est un OS qui est censé réussir à couvrir à peu près tous les usages qu'un OS peut avoir, du téléphone à la voiture, justement. Ce n'est pas les premiers Chinois à montrer leur voiture électrique. Ils ont eu, y a eu une offensive marketing ces dernières semaines de tous les constructeurs chinois qui commencent à présenter leur voiture électrique. Et Xiaomi, donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est cet aspect HyperOS, où ils mettent vraiment en avant l'OS, un petit peu comme Sony fait l'intérieur de la voiture. Bon, bah là, Xiaomi, ils font l'extérieur et l'intérieur, sans doute. Mais ils se concentrent sur l'intérieur et ils montrent ce qui se passe au niveau interface, finalement. Bon.
C'est intéressant parce que c'est l'une des faiblesses des constructeurs historiques.
Mmh, exactement.
Qui, sur ces chapitres-là, étaient... c'est pas à leur faire insulte, hein, étaient beaucoup dans un assemblage de technologies qui venaient d'ailleurs. C'est-à-dire que... une voiture, c'était ton moteur, ton design, c'était toi qui la fabriquais, mais à l'intérieur, tu mettais des sièges de chez Recaro, des machins, et puis plein de composants de chez Valeo, Bosch et ailleurs. Et sur l'entertainment, tu allais souvent chercher... Souviens-toi, moi, il y a 20 ans encore, tu avais des voitures Renault sur lesquelles il y avait un logo Bose, parce qu'évidemment, c'était pas Renault qui allait faire le système audio. Et là, c'est pareil. Le problème, c'est que ça les dépossède à la fois de toute une partie d'expertise qui devient cruciale aujourd'hui quand les voitures sont connectées, et puis aussi d'un potentiel commercial pour la suite, parce que là-dessus, on peut te vendre du service, de l'abonnement. C'est tout bête, mais moi, je paye 10 balles par mois à Tesla pour avoir la navigation temps réel, la connexion 4G, etc. C'est à peu près sans douleur ensemble, mais multiplié par les 5 millions de voitures qu'ils ont sur la route aujourd'hui, bah à la fin de l'année, ça fait quand même un joli ticket. Et donc c'est important et intéressant que des gens soient dans une sorte d'intégration verticale. Je suis pas sûr que ce soit Xiaomi qui produise son propre moteur, et je suis à peu près certain que c'est pas Xiaomi qui fait ses propres batteries, mais en gros, ils sont là où la valeur ajoutée se trouve, et c'est une valeur ajoutée qui a été très largement déplacée par rapport à ce qu'était la voiture thermique.
Et bien justement, en parlant d'interface, Volkswagen fait aussi quelque chose d'hyper intéressant. On revient à l'IA, hein, il est difficile de s'en éloigner en ce moment. Ils ont intégré ChatGPT à leur voiture, vraiment le ChatGPT d'OpenAI, un partenariat. Alors vous vous dites, à quoi ça sert ? En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que là encore, c'est une histoire d'interface. C'est-à-dire qu'une interface entre l'homme et la machine... il y en a eu différentes formes au cours des décennies qui ont précédé. On a eu du texte, on a eu les grosses évolutions. En gros, on a eu le texte, donc l'interface, c'était le clavier. Puis, s'y est ajoutée la souris, interface graphique. Puis, on a eu les interfaces touch, avec le toucher avec l'écran. Et puis, petit à petit, la voix. Et maintenant, c'est vraiment la voix qui peut devenir une interface. À chaque fois qu'on parle d'IA, régulièrement, j'essaye de rappeler que le gros bénéfice de l'IA, c'est que ça permet d'interagir avec une machine par langage naturel. Et bien là, c'est un petit peu le cas aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interagir avec sa voiture par langage naturel dans un premier temps pour avoir des informations, peut-être sur l'état de la voiture, peut-être pour des questions sur Internet. On dit simplement... bonjour VV, est-ce que tu peux me dire quel temps il fera demain ? Bon, on a déjà ça sur le téléphone peut-être, mais Volkswagen se dit c'est peut-être pas mal de l'avoir dans la voiture. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce partenariat. Peut-être qu'il sera limité, en tout cas au début, peut-être que ça ne va pas super bien fonctionner. Mais imaginez une voiture avec laquelle on peut interagir par la voix, que ce soit par l'intermédiaire d'un téléphone qui sera connecté au système de la voiture ou simplement parce que la voiture a une intégration à ChatGPT et va pouvoir avoir ses propres informations qu'elle va pouvoir vous transmettre par la voix. Eh bien, c'est une expérience qui est facilitée pour l'interaction avec la machine. Donc, c'est ça qui est pour moi le vrai aspect notable de ce partenariat, qui est peut-être anecdotique par ailleurs.
C'est intéressant parce que je voyais des statistiques, il y a plein de chiffres qui sont tombés là justement sur le marché de la voiture et de la voiture électrique en particulier. Alors tous les acteurs de l'électrique évidemment sont en croissance. Il y avait deux choses moi frappantes, c'est que Tesla a passé les 5 millions de véhicules sur la route. C'est intéressant parce que c'est encore une illustration de l'accélération de l'innovation. C'est-à-dire que moi, je me souviens de l'époque où le grand but stratégique de Tesla, c'était de dire un jour, on arrivera à faire 5000 voitures par semaine. il y a longtemps. Hein. Mmh. En fait, c'était il n'y a pas si longtemps. Et pourtant, ce n'est pas Tesla qui a vendu le plus de véhicules électriques dans le monde cette année, enfin 2023. C'est justement BYD, le chinois, qui commence à avoir des concessions chez nous avec des véhicules tout à fait intéressants, honorables. Bon, il va se passer plein de trucs parce qu'à un moment, on ne va pas pouvoir avoir 125 constructeurs de voitures électriques. Mais tout ça est quand même au service d'un truc qui est en train d'exploser et puis avec des prix qui sont en train de baisser. C'est assez passionnant.
Et tout le monde cherche à se différencier, du coup, Volkswagen qui va voir du côté de ChatGPT. Bon, c'est pas si surprenant que ça. Bon, il faut quand même une petite news un peu n'importe quoi, hein, vraiment n'importe quoi, dans le CES. J'ai, comme beaucoup de sujets, pris l'article de Numérama pour vous parler du masque pour pouvoir téléphoner en toute tranquillité dans l'avion ou dans le train, sans déranger les voisins. C'est un masque qui est développé par une start-up française à Toulouse qui s'appelle SkyTed et qui est en fait un masque, vous voyez un petit peu les masques de, bah là encore, les films genre de science-fiction quand on a un masque sur le visage parce qu'on n'arrive pas à respirer ou ce genre de choses, ou simplement pour avoir l'air très méchant. Bah, c'est un masque qui enferme complètement la voix et qui annule le son de votre voix, mais il y a un micro pour le capter et l'envoyer à votre téléphone. Donc, quand vous parlez, personne autour de vous ne vous entend, mais vous pouvez continuer à parler. Alors, ce n'est pas tout à fait n'importe quoi, on va dire, mais je ne suis pas convaincu que ça ait une immense utilité non plus, d'autant plus que c'est un peu encombrant, le sortir dans le métro pour se mettre à parler, simplement, enfin dans le métro, dans le train pour se mettre à parler. C'est un petit peu bizarre, c'est genre... ça fait la taille d'un casque de réalité virtuelle, presque. Bon.
Voilà, mais qu'on se mettrait devant la bouche, je l'ai vu. C'est pas la première tentative hein, du genre, mais... je sais pas. Là aussi, je cherche l'application. Enfin, toi, c'est dire, on va remplacer les espèces de petites cabines de call que tu mets dans les bureaux pour que les gens s'isolent par des trucs... Non, on retombe sur le même problème que sur les casques de réalité virtuelle, c'est-à-dire que tout ce que tu mets sur ton visage, d'ordinaire jusque-là, n'a pour seul but que de te rendre plus attirant pour le sexe opposé, ou pas d'ailleurs. Tu choisis tes lunettes, tes machins, ta coupe de cheveux, la barbe, pas la barbe, le maquillage, je t'en parle même pas. Enfin, c'est-à-dire que dès que tu t'attaques au visage, c'est un truc à manier avec précaution, avec discernement.
Là, effectivement, c'est pas... Non, même au-delà de ça, tu t'imagines le trimballer dans ton sac juste pour ça, déjà.
Oui, mais non. Pour ressembler à un truc cyberpunk, désolé.
La dernière news du CES est une news qui ne vient pas du CES. On va en parler rapidement parce qu'on en reparlera dans un mois environ. Puisque Apple a annoncé la date de sortie de son Vision Pro, le casque de Spatial Computing, justement, ça sera le 2 février, et ils l'ont annoncé. Alors moi, je ne pensais pas qu'ils le feraient pendant le CES, mais quand tu choisis une date comme ça, c'est sans doute pour faire de l'ombre à tout le monde, hein, parce qu'ils auraient pu le faire une semaine après, ou... Non, ils ont choisi pile à ce moment, et donc tout le monde parle d'Apple. Encore une fois... Pas forcément besoin d'en parler très longuement, parce que là, c'est juste l'annonce de la sortie. Il y a quelques petits trucs à mentionner peut-être, c'est la pub d'annonce est plutôt rigolote. C'est une pub qui fait référence à la pub de lancement, c'est une pub qui fait référence à la pub pour l'iPhone premier du nom, où on voit en fait des extraits de passages de films où les gens mettent des casques sur la tête. Alors, ça peut être des petites lunettes, ça peut être ce genre de choses. Pour l'iPhone, c'était plein d'extraits de films où les gens disent « Allô ». Et c'est marrant de voir à quel point, là encore, Apple ne communique pas sur son produit, mais sur le sentiment, le feeling qu'ils veulent évoquer, qui a presque rien à voir avec l'usage du produit. C'est juste qu'ils veulent démocratiser le fait de se mettre un truc sur la tête et coolifier le truc. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne, mais c'est plutôt
plutôt
rigolo. Il y a du travail pour le coolifier, c'est sûr.
Là, il y a la coolification et puis il y a le prix.
Ah oui, alors ça, c'est autre chose. C'est marrant parce que ce qu'on en entend, c'est qu'ils vont en vendre très peu. Ils prévoient d'en vendre très peu. Il coûte quand même 3 500 $. N'oubliez pas qu'il sera en vente uniquement aux États-Unis. On a des retours sur le fait que les employés des Apple Store vont faire des voyages à Cupertino pour se faire former, etc. D'après ce qu'on en entend, ils veulent en vendre quelque chose comme 500 000 la première année. Donc, c'est vraiment très, très limité. Ils sont prudents, ils sont réalistes sur le début du cycle de vie de ce produit et de cette gamme qui a évidemment l'ambition de s'étendre, mais à ce stade, c'est très très modeste. Quoi. 500 000 pour Apple, c'est presque un détail.
T'as oublié dans les coussins du canapé. Quoi.
Voilà, c'est ça. Quand Tim Cook se lève, il laisse tomber quelques milliards dans
Oups, le canapé. Pardon, excuse-moi.
Puisqu'on parle d'Apple, je voudrais juste dire que visiblement, ils devraient renouveler toute leur gamme d'iPad cette année. Donc voilà, si vous attendiez un petit peu, ça devrait arriver. Et donc l'Apple Vision Pro, le 2 février, aux États-Unis seulement. Donc ils pensent étendre dans le courant de l'année, mais a priori pas en France avant un petit moment. Et voilà pour le CES. Avant de passer au sujet suivant, j'aimerais vous parler un petit peu d'un sponsor qui fait des pubs que vous avez peut-être entendues dans l'émission ici et là. On a commencé une campagne. Et je dois dire que ce sponsor, c'est Infomaniac. Infomaniac qui est un hébergeur. Et je dois dire que j'étais assez content quand ils sont venus me voir pour me demander si j'étais intéressé de travailler avec eux. Parce que c'est une boîte qui est vraiment, vraiment pas comme les autres. Et j'aimerais vous en dire deux mots. En parallèle des services qu'ils offrent, dont je vous parle dans les pubs que vous avez dans l'émission, il y a quelques trucs à dire sur eux et sur leur philosophie. Parce que quand on pense aux hébergeurs, je crois qu'on a, on a l'habitude de se dire que c'est un petit peu tous les mêmes. Les hébergeurs, bon, OK, on a besoin d'un hébergeur, ils sont tous pareils. Infomaniac, ils sont vraiment différents et peut-être pas là où vous les attendez. Pour moi, c'est un peu, comment dire, le vilain petit canard de l'industrie. Je vais vous raconter un truc, je ne sais pas s'ils seront d'accord que je vous le dise, si je suis sûr que ça va aller. Je leur ai envoyé des petits bullet points de ce que je voulais, de ce que je voulais dire dans l'émission pour cette partie sponsor spécifique. Et je leur ai dit, je voulais dire, c'est le vilain petit canard. Ils m'ont dit, tu ne pourrais pas dire plutôt le signe majestueux? Et donc, on va dire que c'est le signe majestueux de cette industrie, parce qu'ils sont effectivement différents. C'est une boîte qui est indépendante, qui est engagée, qui est éthique. C'est une boîte qui veut rester en Europe. Ils ne veulent pas vendre à un gros conglomérat. Ils ont presque la volonté d'avoir une alternative philosophique aux GAFAM. Et c'est le genre de personnes qui privilégient l'open source aux propriétaires volontairement. C'est des gens qui font de l'écologie depuis 15 ans. Enfin, ils ont une volonté de faire les choses différemment et de les faire selon leurs valeurs. Je voudrais vous donner un exemple, qui est l'exemple de leur data center. C'est un sujet, les data centers, c'est un sujet, les centres de données, c'est un truc qui est un petit peu polémique ces dernières années. On dit ça consomme trop d'électricité, ça prend de la place dans différents endroits où il ne devrait pas être, le refroidissement est problématique, etc., etc. Ça fait plein de polémiques. Et eux, ils ne perdent pas de temps à débattre des polémiques ou à se dire dans tant de temps on fera comme ça ou on fera comme ça, ils agissent tout de suite. Leur nouveau data center, c'est pas un hangar dans une zone industrielle, c'est un truc qui est dans un quartier, dans une ville, qui a zéro impact sur le paysage parce qu'il est en sous-sol. Et comme tout leur data center, c'est un data center qui est pas climatisé. Vous saviez qu'on peut... Moi, je ne savais pas qu'on pouvait ne pas climatiser un data center. En fait, on peut, si on fait les choses bien, si on réfléchit à la manière dont on conçoit les choses, on peut faire des data centers qui ne sont pas climatisés. Ils ont, en plus, sur ce dernier, créé un système pour récupérer la chaleur du data center et l'utiliser pour chauffer des habitations. C'est exactement le genre de truc dont on se dit « ça serait super de le faire ». Et on en parle pendant des mois et des heures et des années. Bah eux, ils le font. Et c'est pile le genre de, d'idées dont on se dit ça serait bien de le faire. Eux, ils le font, ils le mettent en place concrètement. C'est pour ça que je vous dis, ils sont différents. C'est, alors évidemment, ils ont des services super, ils sont en Suisse, ils sont indépendants, tout ça, mais ils ont vraiment une volonté des fondateurs de respecter ces valeurs et de les mettre en pratique. Et ils font ça depuis longtemps et ils le font bien. Donc, c'est pour ça que moi, je tenais à vous en parler, à les mettre en avant pour cet aspect aussi, en plus de leurs produits qui sont cool. J'imagine que vous êtes peut-être un petit peu sceptique sur ce genre de sujet. Donc, je vous encourage, moi, comme je l'ai fait, à vous renseigner sur le sujet. Parce qu'avant de travailler avec eux, évidemment, je me suis renseigné. Je vous encourage à aller le faire. Vous pouvez aller sur leur site, infomaniac.com, et voir ce qu'ils font au niveau de leurs efforts éthiques, que ce soit pour les données ou la construction des data centers ou tous ces sujets sur lesquels ils ont une vraie volonté, ou alors sur leurs services qu'ils proposent, parce qu'ils ne sont pas que hébergeurs, ils ont aussi du mail, du stockage, de la visioconférence. Enfin, c'est vraiment une suite de services qui est une alternative aux GAFAM, comme je le disais plus haut, et qui fonctionne et qui est faite avec des valeurs. Donc, Infomaniac, c'est, comme on a dit, le signe majestueux de cette industrie, et je pense qu'on gagne à les connaître et certainement à les utiliser. Merci beaucoup à Infomaniac de sponsoriser cet épisode. Je suis très heureux de travailler avec eux et on continue pour la suite de cette émission.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Et donc, la suite de cette émission, c'est le New York Times qui lance un procès important, qui risque d'avoir des conséquences extrêmement lourdes pour l'avenir de la tech et de l'IA, un procès contre OpenAI. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce procès, mais je pense qu'il est important de le détailler, parce que tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Ce qui se passe, c'est qu'il cristallise avec ce procès ce qu'on dit sur OpenAI et sur l'IA en général depuis un bon moment, c'est-à-dire que les modèles de langage utilisent des contenus copyrightés et de ce fait, quand ils recréent du contenu, eh bien le contenu recréé est sujet au copyright du contenu qui a été utilisé pour créer les modèles. Et ça, c'est la question ou l'interrogation qu'il y a sur tous ces modèles de langage qui sont évidemment entraînés sur des tonnes et des tonnes de textes ou d'images ou des dizaines de milliers de millions de documents, que ce soit pour le texte ou pour l'image. Et donc, le fait que le New York Times se lance dans un procès va nous donner la réponse à cette question qu'on se pose depuis un an et demi. Est-ce que un contenu créé par un modèle de langage ou un modèle d'image, enfin par les modèles d'IA générative, sont sujets au copyright ou non, en tout cas aux États-Unis, hein, puisque le procès a lieu aux États-Unis. Ça, c'est la question de base, et on pourrait s'arrêter là et se dire, bon, bah, peut-être que oui, peut-être que non, c'est au juge d'en décider, au procès d'en décider. Évidemment que ça sera le cas, mais il y a des détails intéressants à explorer dans le procès et dans le fonctionnement de la chose. parce que les experts, qu'ils soient des experts techniques ou juridiques, sont assez divisés sur cette question. Il y a des experts techniques qui vont dire ce qu'on recrée, c'est pas sujet au copyright. Il y a des experts juridiques qui vont dire la même chose et des experts juridiques qui vont dire le contraire. Le procès en lui-même a une argumentation qu'il est intéressant de détailler. Ce que dit le New York Times, c'est pas simplement, comme on pourrait le faire dans une conversation de comptoir, c'est pas simplement « il y a de notre contenu du journal qui a été utilisé pour créer le modèle de langage, donc on doit être compensé ». Parce que le problème du copyright, c'est pas l'utilisation, c'est pas l'ingestion des modèles, mais c'est ce qu'ils créent derrière. Et ce point est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tout cas aux États-Unis, on ne peut pas dire qu'il y a une infraction au copyright si ce qui a été créé n'est pas une infraction au copyright. C'est-à-dire que si Midjourney est entraîné sur énormément de contenu copyrighté, alors la question peut se poser aussi, mais si Midjourney a été entraîné sur énormément de contenu copyrighté, peut-être que ça c'est un problème, mais la question du copyright qui pose problème, c'est est-ce qu'il va ressortir derrière du contenu qui contrevient au copyright. Si Midjourney ne fait que des contenus originaux qui n'ont rien à voir avec le contenu ingéré, eh ben alors le cas pour dire c'est une infraction au copyright est vraiment difficile à défendre. Et c'est la même chose pour le texte. Si ChatGPT a été entraîné sur un corpus qui inclut tous les articles de l'histoire du New York Times, mais que ce qu'il ressort n'a rien à voir avec les articles du New York Times, eh ben c'est difficile de dire qu'il enfreint le copyright. Et il y a deux choses dont je vais parler. D'une part, un article de IEEE Spectrum qui détaille cette question, qui étudie cette question, et qui montre, pour Midjourney en tout cas, que quand on lui demande des choses, c'est-à-dire pour l'image, quand on lui demande des choses qui n'ont rien à voir avec, dans la requête des films copyrightés, eh ben, il peut ressortir des contenus qui sont vraiment du contenu copyrighté. Par exemple, si on lui demande un robot doré dans l'espace, eh ben, il va ressortir Z6PO. Si on lui demande, par exemple, un dessin animé tout jaune des années 90, il va ressortir Les Simpsons. Alors, évidemment, on comprend bien ce qu'on cible avec cette demande, mais il n'empêche qu'il ressort exactement l'image en question. Par exemple, si on lui demande une armure en noir avec une épée de lumière, capture d'image de film, eh ben, il va ressortir, évidemment, Star Wars. Donc, on n'a pas dit Star Wars dans la requête, mais l'image, c'est des images de Star Wars. Pour le New York Times, c'est du texte. Donc, c'est un petit peu différent. Le procès que fait le New York Times a dans ses arguments le fait que ChatGPT peut ressortir dans ses réponses des articles verbatim du New York Times. Et là, si on s'arrête là, on se dit « Oh mais mon Dieu, évidemment, ça c'est inacceptable, il a ingéré du New York Times et il ressort du New York Times, évidemment que c'est une infraction au copyright. » La réalité est un petit peu plus compliquée. Ce qui se passe dans le procès, c'est que la manière dont ils argumentent leur argument, c'est qu'ils disent « Ils ont créé des requêtes dans lesquelles ils incluent le titre de l'article, l'URL de l'article et plusieurs paragraphes du début de l'article. » C'est-à-dire qu'il lui donne, vous vous souvenez que les modèles de langage, en particulier texte, il imagine la suite d'un texte à partir du début du texte. Et bien là, on lui donne tous ces éléments et le début de l'article. Et dans de nombreux cas, il ressort l'intégralité de l'article, on va dire à 80-90% de l'article. Et là, vous dites, ah bah ok, c'est une situation tellement particulière. Attends, il lui a donné 3 oui, ou 4 ou 5 ou 7 paragraphes de l'article. Ouais, faut pas exagérer. Évidemment qu'on va avoir le résultat de l'article. Sauf que, et là on refait un retour de pendule. Là, vous dites, ah, ok, bon, bah, ce process est peut-être un peu poussif, quoi. Sauf qu'il y a plein d'outils d'IA qui pourraient prendre le titre de l'article qui est accessible gratuitement, puisque le New York Times a un paywall, qui prend la partie de l'article qui est accessible, le début de l'article avec les paragraphes qu'on peut voir, sans payer, et qui va ressortir donc l'ensemble de l'article, peut-être pas pour les articles d'aujourd'hui, mais pour les articles qui ont été ingérés par le passé. Et donc, on pourrait concevoir un outil qui est spécialement dédié à faire ça. Et de ce biais,
à ce moment-là, c'est l'utilisateur de cet outil qui serait...
Ou le concepteur de cet outil.
Le concepteur ou l'utilisateur, enfin celui qui publie à la fin en fait, hein, parce que c'est quel que soit l'outil, c'est-à-dire que si je prends Photoshop et que je refais le logo de Nike et que je lui mets que je change la marque, c'est moi le coupable, c'est pas Adobe. Et je suis d'accord sur l'argumentation. Il y a un problème de fond, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que fonctionne le copyright. Le copyright ne t'empêche pas d'aller lire des sources. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es passionné d'économie et que tu lis le Wall Street Journal tous les jours et qu'un jour, sur le sujet qui t'intéresse le plus, je sais pas, l'énergie, par exemple, pour un bouquin, bah, il va être informé de l'inspiration que tu as eue en lisant le Wall Street Journal tous les jours pendant 20 ans. Pour autant, c'est pas une violation du copyright. L'inspiration n'est pas une violation du copyright. La reproduction verbatim est une infraction au copyright. C'est pour ça que le New York Times, les arguments sont un peu spéciaux, parce que quand tu dis à ChatGPT, voici le corpus à partir duquel tu vas travailler, et que tu lui donnes le lien de ton article en disant, maintenant écris-moi le 7e paragraphe, tu peux pas l'accuser de plagiat quand il t'en remontre les 6 premiers paragraphes. Enfin, ça ne tient pas debout. La meilleure défense, et c'est d'ailleurs, je pense, qu'on dit les avocats de ChatGPT, c'est de dire, attendez, mais vos contenus, à aucun moment, ne sont stockés verbatim chez nous.
On pourrait en débattre, mais c'est exactement parce que stocker verbatim chez nous, comment fonctionnent les modèles de langage? Ils sont effectivement pas stockés verbatim, mais ils sont utilisés pour créer un modèle qui les a utilisés. On va dire, ils sont pas stockés verbatim. Oui, mais si tu lui donnes les 3 premiers paragraphes et qu'il te ressort les 3 suivants, c'est difficile de dire ils ne sont pas stockés verbatim, puisqu'il t'a ressorti les 3 suivants verbatim. Mais ce que tu dis est exactement exact. C'est la question que posent tous ces procès et cette question qui est à la fois sociétale et presque philosophique. C'est est-ce que le fait de s'être inspiré de tous ces contenus constitue une violation du copyright? Surtout que tu vas dire « Oui, alors je me suis inspiré de tous les articles de The Economist pour sortir ma version. » Bah oui, là, il y a un retravail dessus. Il y a un travail qui est fait par une personne humaine, un cerveau, et on ne ressort pas la même chose. Mais là, on ne parle plus de la même échelle. C'est un petit peu comme quand on passe de, je ne sais pas, la bêche à l'industrialisation de l'agriculture. C'est plus les mêmes conditions, c'est plus le même contexte, et donc on peut plus appliquer les mêmes règles. Là, en l'occurrence, on a des outils, des machines qui vont pouvoir recréer des choses. Quand on parle de ces images créées par Midjourney, eh ben, il n'y a peut-être pas dans la mémoire du modèle les images de Dark Vador et des Simpsons, mais il n'empêche qu'il les recrée verbatim pour le texte. C'est exactement ça. C'est impossible de se tromper. On voit les images de Sonic le Hérisson ou de Mario, bah, c'est clairement Sonic et Mario. Donc,
je suis d'accord que c'est plus compliqué pour l'image. Parce qu'en plus, l'image...
Oui et non, je suis pas sûr que ça soit plus compliqué. Pour l'article, pour la question du texte avec le New York Times, il ressort. Oui, il a besoin des 3 premiers paragraphes. Je me fais un tout petit peu l'avocat du diable. Hein. Oui, il a besoin des 3 premiers paragraphes, mais il te ressort les 3 suivants, verbatim. Moi, je pensais aussi que c'était plus compliqué pour le texte que pour l'image, parce qu'on a vu à de nombreuses reprises des modèles de d'IA générative pour l'image créer des trucs qui sont clairement des trucs existants. Pour le texte, c'était un petit peu moins le cas. Mais là, bah, s'il te ressort la moitié de l'article en lui donnant la première moitié, eh ben, il a copié. Enfin, c'est pas qu'il a copié, c'est qu'il a recréé verbatim le truc aussi, comme pour l'image, non ?
J'attends de voir comment le truc fonctionne exactement, parce que encore une fois, je pense pas qu'il y a un stockage mot à mot. Mais peut-être qu'en fait,
non, mais peu importe qu'il y ait un stockage mot à mot. S'il te ressort le truc mot à mot, peu importe qu'il y soit stocké ou pas, comment ça fonctionne derrière. S'il te ressort le texte mot à mot, bah, il te ressort le texte mot à mot.
Ouais. Mais si tu veux, c'est comme tous ces outils qui permettent de résumer quelque chose, de résumer une idée. Il y a un exemple qui est donné dans le procès en disant, je ne sais pas quel est le meilleur aspirateur selon Wirecutter. Wirecutter, c'est le site high-tech de test du New York Times. Et évidemment, ChatGPT te fait le résumé du dernier test d'aspirateur. Je ne sais pas si c'est aspirateur, mais enfin, tu vois, tu comprends l'idée, de Wirecutter. Est-ce que c'est une violation du copyright? Moi, non. Parce que c'est exactement ce qu'aurait fait un rédacteur humain.
Si c'est ce qu'aurait fait un rédacteur humain, un humain, payer un rédacteur humain pour faire un travail, ça a un coût qui limite la possibilité d'industrialiser la chose, de le faire à grande échelle. Là, si le coût est divisé par 200, eh ben, tout à coup, c'est plus le même contexte. C'est ce que je disais par rapport à la bêche et au tracteur. C'est plus le même contexte.
Oui, mais la loi sur le copyright ne fait pas ce genre de distinction.
C'est exactement ça.
Il y a les choses qui violent le copyright et les choses qui ne le violent pas.
C'est exactement la question. Est-ce qu'il faut la changer? C'est ça que pose la question que pose ce procès. Est-ce qu'il faut changer la loi sur le copyright?
Et tout à coup, rendre acceptable des choses parce qu'elles sont faites par les humains. Ouais.
Je sais pas. Ça va être compliqué. Je sais pas, peut-être.
Non. Je suis pas vendu là sur l'idée, mais en revanche, oui, il faut être très clair sur le fait que l'inspiration n'est pas une violation du copyright. C'est pas possible. Tu peux lire ce que tu veux.
Mais je crois que personne ne...
Si, j'en ai entendu beaucoup. Bah si,
non, bien sûr,
mais... c'est de dire, regardez, ils sont venus scanner nos contenus qui leur permettent de. Ah ouais, mais c'est pas ce que tu lis qui est important, c'est ce que tu produis.
Tu as tout à fait raison. Et c'est l'ensemble de l'argumentaire du New York Times dans ce procès. Il ne s'appuie pas du tout sur... Enfin, la raison pour laquelle ils ont lu nos contenus, la raison pour laquelle ils disent qu'ils ont lu nos contenus, c'est pour appuyer ensuite le fait qu'ils ressortent nos contenus. Tu vois, ils disent qu'ils l'ont lu et ils le ressortent tel quel. Alors oui, effectivement, parfois ils disent est-ce que tu peux nous donner l'article qui est en paywall sur ce sujet, et il te dit le premier paragraphe, et ensuite tu lui dis « Ah, super, tu peux me donner le paragraphe suivant ?» et il te ressort le paragraphe suivant, tu vois. Le procès insiste vraiment sur cette partie génération de contenu, et pas l'inspiration, comme tu le dis. Donc, ils sont bien conscients au New York Times que, oui, on a lu nos contenus pour créer vos modèles de langage, c'est une question qui est différente. Là, ça porte sur une autre question. La réponse de OpenAI, c'est en gros, il faut quand même vraiment avoir des prompts très, très ciblés et limite anomalitiques pour obtenir ces résultats. Donc, vous avez un petit peu trafiqué votre procès. Je ne sais pas si la vérité est d'un côté ou de l'autre ou entre les deux. Le procès donnera la réponse. J'ai l'impression que toi, tu es un petit peu hostile à cet argumentaire.
Non, mais c'est un truc où il faut... Le problème, c'est les effets de ce genre de choses. C'est-à-dire que recherche le New York Times, en clair? Il cherche un modèle de licence. En disant, très bien, vous allez venir indexer mes contenus. C'est un peu Google News all over again, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que des gens vont pouvoir aller lire du contenu du New York Times sans passer par le New York Times? Ça, on comprend, c'est un vrai danger mortel. Et ça a été 20 ans de débat sur Google News, même si Google a donné aux éditeurs 1000 outils pour, de manière très fine, décider ce qui peut aller sur Google News, ce qui ne peut pas y aller, de manière limitée, ouverte, payante, etc.
C'est ce que dit aussi OpenAI, d'ailleurs. Vous avez des outils pour demander à ce qu'on ne soit pas intégré, comme pour les moteurs de recherche. Est-ce qu'on n'intègre pas votre contenu? Tout à fait.
Tout à fait. Alors, c'est plus compliqué parce qu'il y a un grand corpus de langage qui sert à tous les LLM qui s'appelle le Common Browser, je ne sais pas quoi, et dans lequel il y avait les articles du New York Times. Bon, apparemment, ils les ont sortis de la dernière version. Le problème, c'est que ce modèle de licence, il ne va marcher qu'avec les plus gros, qu'avec OpenAI, qu'avec etc. Et on est quand même à un moment de l'histoire où il se passe plein de choses, où il y a encore de la place pour de nouveaux entrants. Ce serait dommage de mettre dès maintenant un péage sur une route dont Macadam est encore frais, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a encore, matière à innover. Donc, il y a un danger à arrêter des règles qui, d'un coup, seraient des espèces de barrières à l'entrée. Tu remarques que les plus gros, ils se plaignent assez rarement de ce genre de choses. Alors si, hein, sur Google News, comme sur Meta, etc., il y a eu plein de choses où on dit « c'est comme ça, on va arrêter d'indexer les news pour nous casser les pieds ». Mais les plus gros sont rarement sur le RGPD par exemple, c'est pas les plus gros acteurs qui sont le plus gênés parce que eux, ils ont le temps, les moyens de faire de la compliance, d'anticiper les choses et d'être parfaitement en règle, enfin dans la mesure du possible. Ce que ça gêne, c'est les petits acteurs, les acteurs naissants. Où tout à coup, s'il y a un ticket d'entrée, une espèce de barrière à l'entrée réglementaire, etc., ou financière, qui fait que le modèle économique au début tient plus, bah, il y aura moins de nouveaux acteurs, il y aura moins d'innovation. Donc, c'est quelque chose quand même à manier avec parcimonie.
Moi, ce que j'en conclus, c'est que OpenAI est en train de travailler avec différents acteurs, différents éditeurs, pour justement faire des licences. Avoir des licences pour utiliser leur contenu. Apple est sur cette ligne également. Donc, je crois qu'il y a des histoires qui vont se régler de cette manière. Et ce n'est pas forcément plus mal. Évidemment qu'ils défendent leur bout de gras au New York Times. Ils essayent de se faire payer de la meilleure manière qu'ils puissent. OpenAI essaye de ne pas payer. D'ailleurs, ils disent on essaye de travailler à réduire la régurgitation, ce qu'ils appellent la régurgitation, c'est-à-dire le fait de recréer un article verbatim. Et puis, en parallèle de ça, ils sont en train de payer. Et puis, payer pour licencier du contenu. Et puis, en parallèle de ça, il y a des procès qui vont donner des réponses légales et sociétales à ces sujets. Donc, tout ça va se décanter en quelques années. Je pense qu'il est important, effectivement, de ne pas étouffer certaines évolutions, certaines innovations. Il est important aussi de protéger le contenu qui sert à créer ces choses-là. Je crois que ça va se décanter un petit peu tout seul, grâce notamment à des choses comme ce procès du New York Times. Il y a quelques sujets en plus dont je mettrai les liens dans la newsletter et dont je parlerai peut-être dans un petit after show juste après cette émission pour les patriotes. Il y a une montée des influenceurs et influenceuses par IA et une influenceuse en particulier qui s'appelle Amaranth qui a créé son IA, son double numérique auquel on peut s'abonner pour avoir des conversations et des photos, sachant que Amaranth est une influenceuse qui faisait du, comment l'appeler, pas du porno, mais du soft porn pendant longtemps, et elle s'est dirigée vers le porno depuis un certain temps. Donc là, c'est vraiment un abonnement pour avoir des photos et des conversations explicites. Et comment dire ? Bon, vous lirez l'article, c'est intéressant et il y en a de plus en plus. Je vous mettrai le lien dans la newsletter. La touche copilote aussi, qui est une touche que veut rajouter Microsoft au clavier. C'est une touche pour son IA qui symbolise en fait, comme la touche Windows, hein, vous vous souvenez de la touche Windows, elle est toujours là sur tous nos claviers. Ben là, il rajoute une touche copilote. Copilote, c'est l'IA qui va être intégrée un petit peu partout. Au-delà de la touche elle-même, c'est intéressant de voir à quel point Windows et Microsoft s'engouffrent à fond dans l'IA. C'est un sujet dont on pourrait parler encore plus, évidemment, et dont on parlera, je suis sûr, à terme encore. Mais Microsoft y va plus qu'à fond. Ils ne veulent certainement pas perdre de temps ni d'opportunités de prendre les devants sur l'IA. Je ne pensais pas qu'ils iraient autant.
Ah, ça s'articule tellement avec ce qu'ils font déjà, à la fois sur la recherche et puis aussi sur tout office, la bureautique, etc. Ils avaient déjà des espèces de petits assistants, tu vois, pour faire une mise en forme rapide d'une présentation, pour etc. Mais là, le Copilot va quand même beaucoup plus loin. Et puis en plus, c'est vraiment que le début de l'histoire, c'est-à-dire que tout à coup, tu vas pouvoir lui dire, tiens, sors-moi les 5 données saillantes de cette feuille de calcul et mets-les dans la présentation qui est ici. Enfin, ouais, écris-moi le texte qui va avec. Enfin, ça va pas aider à produire du contenu de forcément qualité stellaire, mais ça va simplifier la vie de plein de gens au quotidien, quoi.
Je mettrai aussi un lien sur une défense intéressante des hallucinations des IA et des avantages que ça peut avoir. Les hallucinations qui sont des trucs qui fonctionnent pas forcément bien ou parfois trop bien. Un article intéressant dans la newsletter aussi. Troisième et dernier gros sujet de cette émission, Twitter et la dégradation du service. Vous savez que j'ai toujours été... Alors, je n'aime pas particulièrement Elon Musk, vous le savez, et je n'ai pas particulièrement été prompt à enterrer Twitter par principe, comme veulent le faire certains. Donc, j'espère que quand je vais vous dire mon sentiment sur ce qui se passe maintenant, vous me croirez, ou au moins vous comprendrez que j'essaye d'être aussi objectif que possible. J'ai, depuis quelques semaines, des choses assez frustrantes qui se passent sur Twitter et sur l'écosystème et sur le réseau, sur l'aspect social du réseau. J'ai tweeté le 22 décembre une photo complètement anecdotique de mon fils qui gagne à Suica Game, enfin qui gagne, qui réussit à avoir une pastèque à Suica Game, qui est un jeu en vogue, qui fait un signe de victoire triomphant, qui est un tweet tout à fait anecdotique, qui n'a rien de spécial. Et depuis, il y a tous les quelques jours des bots qui vont, bien sûr, liker le tweet un petit peu, mais surtout un truc nouveau qui est de reprendre des commentaires qui ont déjà été faits sur le tweet et de les répéter. Et il y en a tellement, c'est devenu tellement proéminent que ça pollue complètement ma timeline de réponses et que du coup, j'ai du mal à lire, à utiliser Twitter, à lire mon flux. Et ça impacte son utilisabilité véritablement. C'est constant et c'est nouveau. Il y en a de plus en plus et c'est vraiment nouveau que ça affecte mon expérience à ce point. Ce n'était pas le cas avant, je n'ai pas plus de followers qu'avant. C'est vraiment un changement de la géométrie de l'écosystème. Il y a beaucoup de gens qui parlent également. Et j'ai parlé de ce problème et d'autres personnes ont confirmé qu'ils avaient le même problème. Il y a des bots qui viennent avec une nouvelle technique qui passe les filtres, en fait, répéter des commentaires, liker. Il y avait depuis un moment les likes de sexbots. Vous savez, c'est un compte avec une photo de femme qui va liker vos réponses, pas vos tweets, mais vos réponses à des tweets. Immédiatement après que vous ayez tweeté, il va y avoir une réponse qui est liké. Et donc, vous allez voir, mais qui a liké mon truc? Vous voyez que c'est un sexbot et j'imagine que c'est comme ça, ça fait une sorte de spam, quoi. Ça faisait un moment. Les réponses répétées, ça fait pas si longtemps. Et d'autres personnes m'ont confirmé qu'ils avaient le même problème. Il y a aussi beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir de plus en plus d'arnaques aux cryptos sur Twitter, de messages, de pubs et de messages d'arnaque crypto. Alors, ils n'ont pas de pub légitime ou de moins en moins de pub légitime sur Twitter, donc ils se contentent de ce qu'ils peuvent avoir, sans doute, mais il y en a de plus en plus. À côté de ça, les chiffres que partage Elon Musk, il se gargarise de cette métrique un petit peu ridicule qu'a sorti Twitter il y a quelque temps, qui est le nombre d'utilisateurs secondes. Et il disait, regardez, on a un nombre d'utilisateurs secondes en croissance constante, c'est incroyable, c'est merveilleux. Sauf que, une petite analyse rapide montre qu'il y a peut-être plus d'utilisateurs secondes, mais dans les chiffres, ce que ça dépeint, c'est que soit le nombre d'utilisateurs est... en fait, quand on calcule... On divise par le nombre d'utilisateurs le total de la moyenne d'utilisation par jour est plus faible. Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient beaucoup plus d'utilisateurs. Ils disent qu'ils ont 253 millions d'utilisateurs au dernier chiffre. Et quand on voit le nombre d'utilisation, le temps d'utilisation par jour, et bien en fait, si ces chiffres du nombre d'utilisateurs secondes et du nombre d'utilisateurs tout court sont justes, eh ben, l'utilisation par jour en moyenne par utilisateur a beaucoup chuté. Elle est passée de genre 32 à 23 minutes, quoi. Ou alors, si il y a le chiffre de la moyenne d'utilisation est toujours bon, eh ben, en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs qu'avant. Il serait passé de 250 à 185. Donc là aussi, c'est un indice qui laisse penser que bah, non seulement ce que dit Elon Musk n'est pas une si bonne nouvelle pour Twitter, contrairement à ce qu'il croit, mais surtout qu'il y a un problème avec l'usage de Twitter. tout ça est couronné par le fait que l'un des investisseurs dans l'achat d'Elon Musk a divisé la valeur de son investissement à 28% de sa valeur annuelle, de sa valeur d'origine. Donc, ça veut dire qu'ils ont l'investissement de Fidelity, hein, c'est l'investisseur dont on parle, je ne sais plus de combien il était, mais la valeur a chuté de 71,5%, la valeur de leur investissement.
C'est une estimation, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont forcés d'estimer la valeur d'un investissement à l'instant T dans leur compte, et il n'y a pas d'argent qui a changé de main, si tu veux, mais voilà, ils estiment qu'aujourd'hui, au vu des chiffres, et puis surtout des chiffres de business, de Twitter, de publicité, c'est pas, ils sont pas, mais ça, c'était, on savait que de toute façon, tout ça avait été payé beaucoup trop cher, d'ailleurs, même Musk le dit, en disant, bien, je sais que j'ai payé trop cher, 44 milliards, mais surtout, on voit plus, en fait, c'est-à-dire que Il y a des choses qui étaient de bonnes idées quand il a évoqué, tu vois, le payant, par exemple, depuis cheval de bataille depuis le début, c'est tu veux un truc qui règle tout, c'est-à-dire les problèmes de pub, les problèmes de machin, les problèmes de bot, etc. Bah, il faut que ce soit payant. Le problème, c'est qu'il est trop tard pour faire ça maintenant et il était trop tôt et ça a été maladroit quand ils l'ont fait. Donc, le passage vers X.com, ce n'était pas le moment non plus. Il fallait le faire au moment où, justement, tout à coup, Twitter te permettait de faire tout ce qu'apparemment ils ont dans les cartons sur le paiement, le dating, le machin, enfin, tu vois, sur la Wonder App. Donc, tout ça a été fait de travers. Et de fait, moi, j'y passe moins de temps, j'y publie beaucoup moins. Mais pourtant, il n'y a rien qui le remplace vraiment. Alors, je n'ai pas Threads. Toujours parce que j'ai toujours pas le moyen d'accéder à mon compte Facebook. Blue Sky, c'est bien, mais...
C'est pas fou. Franchement, moi, Threads, c'est pas incroyable. J'y suis aussi, j'y poste. Ouais. Bon, il n'y a pas de remplaçant hein, sur ce point. Je constate une lente déchéance de Twitter aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois encore. En dehors même de toutes les questions de nature du service, même si c'est lié... Je constate que, bah oui, c'est de moins en moins bien. Mais malgré ça, toutes les communications se font encore sur Twitter aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça sera le cas pour toujours. Hein. Cette lente déchéance peut aller jusqu'à provoquer l'avènement d'un remplaçant. Mais pour le moment, comme tu dis, bon, Blue Sky, bof, oui, c'est sympa, mais ce n'est pas là qu'on va dire nos news, quoi.
Non, j'ai vu encore assez peu d'institutionnels qui quittent Twitter de manière visible. Bon, il y a Anne Hidalgo, mais c'est un peu hors sujet. Donc c'est pas mort, mais ça va pas très bien. En revanche, c'est quand même un truc vachement surprenant, c'est quand même que voilà une boîte qui a viré 80% de ses troupes, 85-90%, et le service fonctionne encore. Donc
on est d'accord.
Une chose sur laquelle ils avaient pas tort, c'est que le mammouth était un peu surdimensionné, surtout pour un service qui avait finalement assez peu évolué. Mais là, ils sont dans une position qui ne va pas être tenable longtemps, sinon que... ou alors, on revient à ma théorie du complot que je ressors à chaque fois, c'est que Musk fait tout pour faire baisser la valeur de Twitter pour pouvoir racheter sa propre dette à vil prix. Bon, c'est compliqué.
Ouais.
Mais pourquoi pas,
oui, il est possible qu'il ait voulu simplement détruire Twitter parce qu'il n'aimait pas que ça soit le service que c'était. Il est possible aussi qu'il abuse un petit peu trop des substances récréatives, comme le dit un article sur lequel on ne va pas s'étendre d'il y a quelques jours, dans lequel on apprend que les gérants de ces boîtes, des boards, disent qu'ils commencent à abuser. On le savait, hein, qu'il utilisait des substances récréatives, on va dire, de la drogue, hein, qu'ils se droguent. Là, il commence à y avoir des préoccupations. Ça expliquerait également son attitude un petit peu erratique à chaque fois qu'il parle quelque part ou qu'il tweet pendant la nuit. Mais bon, tout ça est préoccupant, certainement. J'ajoute un petit truc. Il y a un setting à mettre dans les paramètres de Twitter pour ne pas avoir l'affichage des comptes trop récents ou des comptes qui n'ont pas confirmé leur email ou ce genre de choses, qui se débarrasse effectivement d'une grande partie de ces bots. Et c'est ce que j'ai fait. Mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas eu besoin de le faire. Et on se plaignait des bots depuis longtemps sur Twitter. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment une recrudescence. Et je n'avais pas eu besoin de le faire. Ça fonctionnait très bien. Et je ne voulais pas, justement, me couper de potentielles personnes qui voulaient communiquer sans avoir confirmé leur email ou leur, téléphone. Maintenant, je suis obligé de le faire. Peut-être parce qu'en dégraissant le mammouth, Musk a également coupé dans les équipes qui, par exemple, s'attelaient à découvrir les nouvelles techniques des bots pour déjouer les algorithmes qui les détectaient, ce genre de choses. Bah oui, ça mène forcément... Au début, ça tient. Et au bout d'un moment, ça finit par poser des problèmes, même si techniquement, il n'y a pas de doute sur le fait que ça tient beaucoup mieux que ce qu'on nous disait. Bon, bah c'est à peu près tout pour cette partie de news principale. On va passer, du coup, pas de petite promo Patreon, puisqu'on a le sponsor dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on passe au reste des news. On va détailler en un instant... D'abord, un article qui sera dans la newsletter sur la manière dont on confirme les fake news en essayant de les infirmer. Une étude hyper intéressante qui, en fait, a constaté que quand on a une fake news qui nous est proposée et qu'on demande aux internautes de faire des recherches sur Internet pour déterminer si elle est vraie ou non, eh bien, en fait, la chose qui est surprenante, c'est que dans plus de cas que le contraire, eh bien, on va déterminer que l'information fausse est en fait vraie. C'est-à-dire, on vous donne une théorie du complot et on vous dit, faites vos recherches sur Internet pour déterminer si elle est vraie ou pas. Eh bien, il y a eu... Quand les gens qui faisaient la recherche sur Internet, Google, etc., étaient 20% plus prompt à dire « Ah bah oui, en fait, c'est vrai. » C'est préoccupant. parce que souvent, on se dit « Bon, bah, tu fais des recherches et tu peux déterminer le vrai du faux. »
C'est un peu comme l'étude qui disait que c'est les gens qui, aux États-Unis, regardaient Fox News, étaient moins bien informés que les gens qui ne s'informaient pas.
C'est un peu la même chose. En fait, faut juste pas regarder, en fait. Faut juste pas chercher, faut pas googler, tu suis ton instinct. Non, en fait, il y a une explication qui est intéressante, qui ne change pas le problème, mais qui est que, en fait, sur les fake news, il va y avoir des termes spécifiques qui vont être utilisés pour véhiculer ces fake news. Comme par exemple, ils prennent l'exemple de « engineered famine », donc une famine... ingénierée, comment on peut dire ?« Engineered famine ». Une famine créée artificiellement. Eh bien, vous allez avoir un article de fake news qui va dire « Ah, il y a une famine créée artificiellement à tel endroit pour telle et telle raison, le Covid, le machin, le truc. » Vous allez dire « Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu vas rechercher. Et tu vas rechercher le terme « engineered famine », bien sûr. Sauf que les contenus qui vont ressortir, c'est un terme qui est bizarre, c'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs, quoi, ce genre d'idée. Eh bien, les articles qui vont sortir, c'est évidemment des articles qui soutiennent ces idées, qui essayent de les diffuser. Et donc, évidemment, tu vas avoir plein de sources qui vont dire « Ah ben oui, mais alors attends, si, en fait, oui. » Et c'est dur à ce moment. Alors, il faut trouver est-ce que les publications sont fiables ou pas, machin. C'est pour ça que moi, je ne me fie qu'à ce que disent les podcasteurs de French Spin. C'est beaucoup plus... Au moins, tu leur fais confiance. Mais donc, c'est pour ça, en fait, sur ces sujets des conspirations, qui sont justement ceux qu'on veut combattre, eh ben, les articles qui vont sortir sont des trucs qui en parlent et qui essayent de les pousser. Donc, tu risques d'être convaincu. Terrible.
C'est comme si tu cherches, tu vas sur Twitter et tu cherches turbo cancer, tu vas trouver que des trucs d'antivax. Enfin, c'est.
C'est exactement
ce que tu cherches.
Ouais, c'est exactement ça. Et c'est de là que vient le problème. Bref, l'article sera dans la newsletter, hyper intéressant. On vous parlait la semaine dernière, enfin la dernière, au dernier épisode avant les vacances, de cette loi sur la gig économie et le fait de reclassifier les travailleurs de la gig economy en travailleurs employés. On avait parlé en grand détail. Il se trouve qu'au final, les États membres de l'Union européenne ne sont pas hyper satisfaits de cette loi et elle ne va pas passer, en tout cas, elle ne va pas être votée au Parlement. Ce qui s'est passé, c'est que l'intention de départ et la loi telle qu'elle a été écrite au final divergent. Et il y a notamment la question, vous vous en souviendrez peut-être, il y avait plusieurs critères qui pouvaient déterminer si un employé était un gig worker était un employé ou non. Et il y avait des termes comme est-ce qu'on détermine on limite ses horaires de travail, est-ce qu'on dit comment il doit s'habiller, etc. etc. C'est cette manière de déterminer la nature employée ou non de la personne qui travaille pour la société, qui pose problème. pas la philosophie du truc. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus travailler sur le texte pour en faire une réalité, mais par contre, l'implémentation est, selon certains membres, dont la France, mais pas que, trop sévère, ou en tout cas, trop spécifique. Donc voilà, c'est un update sur ce sujet. La loi va être retravaillée encore une fois.
Le truc qui fait que tu es un employé ou pas, c'est le... Comment ça s'appelle ? Ah !
La subordination.
C'est la subordination, voilà. En gros, tu obéis à des ordres. C'est pas juste tu fais ce qu'il y a sur l'écran de ton appli, mais de fait, c'est toutes les choses qui font qu'on décide de tes horaires. Enfin, voilà, il y a des choses qui font que, par exemple, quand tu prends un taxi, le chauffeur de taxi n'est pas ton employé. Attends. Mais en revanche, si tout à coup, il se met à travailler pour toi à plein temps, enfin, voilà, il y a une ligne à ne pas dépasser après laquelle c'est de la subordination. Et donc, on tombe dans je codine une loi du travail.
Et c'est exactement ce qu'essaye de déterminer cette loi dans un contexte où la géométrie, là encore, comme on en parlait tout à l'heure avec l'IA, la géométrie autour du cadre légal a évolué et donc ça ne rentre plus tout à fait dans le cadre. Il est difficile de déterminer exactement dans le contexte de cette gig economy et de gens qui travaillent pour une ou plusieurs plateformes, de quelle manière, si ils ont un lien de subordination ou pas. Et ce qu'essaye de faire cette loi, c'est de déterminer comment on fait pour dire si oui ou non il y a un lien de subordination. Et la manière dont ça a été décidé, avec ces deux ou trois critères sur les cinq ou sept qui existaient, ne satisfait pas les États membres. Donc on va repasser à la case travail, mais je pense qu'elle finira par arriver cette loi. Quelques news rapides. Le Bitcoin a atteint 45 000 dollars. Alors, on n'est pas encore c'était combien ? 69 000 au maximum. Mais le Bitcoin, il a peut-être été enterré un peu vite, y compris moi. Je pensais qu'il ne remonterait pas, je vous avoue. Remonter à 45 000, alors peut-être que c'est tous les crypto-scams de Twitter. Non, ce n'est pas sur du Bitcoin, les crypto-scams. C'est pas du tout
ça. Non, ça veut dire que ça fait quoi ? Ça fait plusieurs mois maintenant que tout le monde dit que les Bitcoin ETF, c'est-à-dire en gros la possibilité d'acheter du Bitcoin au travers de ce qu'on appellerait des fonds communs de placement, enfin en gros au travers de ton banquier ou de ton broker habituel, sans avoir besoin d'un porte-monnaie, de machin, sans faire de la crypto si tu veux, vont être autorisés aux États-Unis. Et ça fait des mois maintenant qu'on dit que c'est pour demain, c'est pour la semaine prochaine, ça y est, c'est maintenant, c'est bien. Ces boîtes institutionnelles disent oui, bien sûr, on travaille sur le sujet, c'est à l'avenir. Mais évidemment, ça a boosté le Bitcoin, parce que tout à l'heure, ça en ferait un moyen d'investissement beaucoup plus grand public, à la fois grand public et puis beaucoup plus institutionnel, parce que si t'es, un fonds de retraite, un fonds de pension, etc., toi, tu vas pas aller acheter du Bitcoin forcément. Par contre, si demain, ton banquier chez Goldman Sachs te dit, vous savez, ce serait peut-être pas mal de mettre des trucs dans ces cryptos. Bref, et ça va permettre à des gens d'investir dans des cryptos sans en avoir les côtés les plus...
abrupt.
Techniques, oui. Parfois abrupt, parfois dangereux, enfin parfois dangereux, justement sujet à scam, à tout ça. Là, tu verras ça comme une ligne de plus à côté de tes actions Air Liquide, AXA et Veolia, tu vois ce que je veux dire. Donc, évidemment, tous les gens qui sont du monde de la crypto sont excités comme des puces parce qu'on parle forcément de montants qui seraient susceptibles de faire bouger le cours.
Amazon va peut-être faire payer ou ajouter des pubs et des contenus supplémentaires payants dans Amazon Prime Vidéo. C'est la suite des nombreux services qui finissent par faire payer ou augmenter leur prix d'un moyen ou d'une autre. Pour Amazon Prime Vidéo, je suis moins outré parce que quand même, Amazon Prime Vidéo, pour les 60 euros d'Amazon Prime qu'on a de toute façon, enfin, qui donne accès à 1000 choses. Bon, s'ils rajoutent de la pub et qu'ils disent, bon, payez 3 euros en plus pour retirer la pub, je peux comprendre. La valeur d'Amazon Prime reste quand même importante. Spotify n'est pas content. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, on est en train d'implémenter une taxe qui serait de 1,5% environ. sur les revenus de, des streamers de musique pour financer le Centre national de la musique, qui a été établi en 2020, qui doit soutenir le secteur français de la musique. Ça rappelle le Centre national du cinéma, hein, au hasard. Eh bien, Spotify a commencé à arrêter de fonder des de financer des festivals qu'ils finançaient. Il y en a deux pour 2024. Ils vont sans doute faire plus, mais ils sont super pas contents. Alors, ils vont pas partir de France parce que c'est un gros marché pour eux. Et je pense que c'est comme ça que le rapport de force se terminera. Mais oui, évidemment qu'ils ne veulent pas payer 1,5% de taxes en plus. Mais je pense qu'ils n'auront pas.
De toute façon, c'est 1,5% sur le chiffre d'affaires, hein, pas sur
oui,
les.
Oui, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que je voulais dire. C'est les
revenus. Non, tu n'avais pas précisé. C'est ce qui est énorme, en fait. Parce qu'eux expliquent que 70% de leur chiffre d'affaires part déjà chez les ayants droit.
Évidemment.
Donc, ça veut dire que ce 1,5%, c'est 1,5% pris sur les 30% restants. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas 1,5%, c'est quoi ?
5%.
Ouais, c'est ça, c'est 5% de ce qui leur reste une fois qu'ils ont payé les ayants droit. Et ça tape directement en haut du tableau, c'est-à-dire pas sur la ligne bénéfice, c'est pas une taxe, c'est pas un impôt. On comprend qu'ils soient pas contents. Et alors évidemment, après, quand les festivals crient à la liberté qu'on assassine, c'est un peu fatigant, quoi. C'est-à-dire que... le Centre national de la musique, justement, est là pour aller financer ce genre de choses. Donc, voilà, ce que dit Spotify, c'est « Attendez, je ne vais pas financer d'un côté ce que je finançais déjà de l'autre. Enfin, » il faut faire des choix.
On est d'accord. Et puis, surtout, c'est une situation qui est un petit peu particulière. Comme tu le rappelles, Spotify paye déjà une immense majorité de leurs revenus aux ayants droit. Donc, ça retourne à l'industrie de la musique. Donc, on n'est pas dans une situation où c'est Google qui fait ses revenus avec la pub et qui prend le contenu de machin. Non. Là, Spotify existe déjà et fait vivre aujourd'hui, Spotify et le streaming en général, font vivre l'industrie de la musique. Donc, je comprends que.
C'est un moteur économique pour l'industrie de la musique.
C'est ça. Bon. Et puis, puisqu'on parle de streaming, une série de news, je ne vais pas tout vous détailler, mais d'une part, il y a le fait qu'on s'attend à ce qu'en 2024, ça soit The Reckoning pour les services de streaming. Tous les Disney+, Paramount+, machin, tout ça, il risque d'y avoir des choses qui se passent en 2024, parce qu'ils ont perdu genre 5 milliards en 2023. Tout ne s'est pas aussi bien passé qu'ils espéraient, ou en tout cas, la concurrence est si rude que les choses sont compliquées à gérer et qu'il risque de se passer des choses en 2024. Mais surtout, ce que je retiens, c'est à quel point YouTube a réussi à tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 13 milliards de vidéos sur YouTube. Alors, le chiffre est gros, mais un petit peu abstrait. Pour vous donner du contexte, il y a 4 milliards de vidéos sur ces 13 milliards qui ont été postées en 2023.
Monstrueux.
Donc, c'est énorme. Et la part d'audience croît constamment, notamment chez les enfants. Selon Nielsen, aux États-Unis en tout cas, elle est passée de 29,4% en 2021 à 33% en 2023, la part d'audience chez les enfants de YouTube, et YouTube un petit peu partout. Donc au final, les deux gagnants de la guerre du streaming, j'ai l'impression que c'est un petit peu Netflix, qui se porte bien, malgré ce qu'on disait l'année dernière, et YouTube. Et bon, bah c'est les plus gros, hein, peut-être, mais tous les assaillants ont failli au pont-levis et aux voûtes, pas aux voûtes, aux douves des châteaux, j'ai l'impression. Mais on verra en 2024.
Imagine, ça veut dire qu'il y a 127 vidéos postées sur YouTube chaque seconde. Non, mais ce qui permet aussi de mettre un dernier clou dans le cercueil de « mais comment est-ce que YouTube n'arrive pas à vérifier sur le contenu des vidéos en temps réel au moment où elles sont publiées ?» Il y en a 127 chaque seconde, cher ami, 7600 chaque minute. Voilà.
Oui, et puis, bon, 4 milliards l'année dernière, ça risque de s'accélérer encore l'année prochaine.
Bien sûr.
Je crois que ça va être à peu près tout pour notre émission. Il y aura encore des liens dans la newsletter. Vraiment, je vous dis, il y en a qui sont super intéressants. Il y a une vidéo d'un bras bionique qui est contrôlé par la pensée et l'IA. Mais vraiment, hyper intéressant. Alors, ce n'est pas un bras de Terminator, mais ça fonctionne. Il y a une histoire sur un CEO d'un fonds crypto qui s'est cassé la gueule, bien sûr, qui n'existait pas. Le type n'existait pas. c'était un scam complet. C'est intéressant encore pour du contexte sur les scams crypto. Puis il y a un guide sur le prompting de Midjourney V6 qui a été publié, je crois, juste avant les vacances. Un guide de Nick Floats, je crois, que j'ai vu sur Twitter. Enfin, Nick Floats, je le suis depuis longtemps. Il est très, très bon sur ces sujets. Si vous voulez apprendre à utiliser Midjourney V6, qui marche assez différemment de Midjourney V5, vous aurez le lien dans la newsletter, évidemment. Des sujets qu'on n'a pas le temps de traiter ici et qui sont quand même passionnants. Ça va être tout pour cet épisode. J'aimerais remercier très chaleureusement Cédric d'avoir été avec moi et de m'avoir accompagné pendant ces longues discussions. Est-ce qu'on peut te
comme
retrouver
toujours un plaisir.
Est-ce qu'on peut te retrouver en podcast en ce moment?
Oui, absolument. Ça y est, les nouveaux épisodes des Doigts dans la prise arrivent sur votre plateforme préférée. Et puis sinon, Cédric sur Twitter. Et c'est deux, le chiffre Rick, c'est deux Rick sur Blue Sky. Pourvu que ça dure, on verra qui gagne à la fin.
Écoute, en France, en tout cas, le concurrent est Blue Sky. Hein. Threads existe, mais l'interface,
on y est pas encore, ouais.
Je la trouve pas idéale, quoi. Tous ceux qui ont copié Twitter, en fait, c'est pas si c'est une question d'habitude ou une question vraiment de cohérence d'interface, mais celle de Threads, je la trouve pas folle. Ah, sur web, en tout cas. Sur mobile, c'est autre chose.
Sur mobile, c'est mieux. Ouais.
Pour ma part, c'est NotPatrick sur tous les réseaux sociaux, dont Twitter et les autres. Vous retrouvez tous les liens vers tous les trucs sympas que je fais. J'ai passé beaucoup de temps sur le Discord pendant les vacances, évidemment. On s'y amuse bien. Hein. On se disait, est-ce que c'est Blue Sky ou Threads ou je sais pas quoi. En fait, non, c'est Discord. C'est tout simplement le Discord de la communauté qui est super cool. On s'y amuse bien. Il y a des gens sympas. Le lien est dans les notes de l'émission. Pour s'abonner à la newsletter, pareil, vous pouvez retrouver le lien dans les notes de l'émission. Et puis, bien sûr, pour soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech, le lien est également dans les notes de l'émission. On va faire un petit after show justement pour les Patreons dans un instant. Donc, si vous êtes patriote et que vous avez accès au flux privé, restez avec nous. On aura l'édito dont je parlais ce week-end pour vous parler un petit peu de ma ligne éditoriale tout à l'heure. Ça sera dans les flux publics aussi. Et puis, ben, on se retrouve dans une semaine, après le rendez-vous jeu, ce jeudi évidemment, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode, toujours pour décortiquer l'actualité tech. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à très vite. Ciao, ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.